franceinter.fr.
Bonjour Lionel.
Bonjour Pierre, bonjour à tous. La presse s'interroge ce matin sur la situation en Afrique sahélienne après l'attentat qui a fait 18 morts hier au Burkina. Pourquoi le Burkina est frappé ? Titre en une Ouest France ce matin. Le quotidien a interrogé un spécialiste des relations internationales pour tenter de comprendre les raisons de cette attaque. Et dans le Midi Libre, Jean-Michel Servan estime pour sa part que l'Afrique est désormais la cible privilégiée des fondamentalistes musulmans. Il ajoute que cette situation risque bien d'empirer dans les prochains mois, les chutes de Mossoul en Irak et bientôt de Raqqa en Syrie, entraînant selon lui les derniers combattants de Daesh vers d'autres territoires fragiles. Pour Dominique Garraud, dans la Charente Libre, cette attaque rappelle en effet tragiquement que le Sahel reste une zone de non-droit. L'éditorialiste qui fustige l'indifférence durable des pays européens, coupable à ses yeux de ne pas suffisamment soutenir les plans militaires de la France pour, je cite, « gagner la bataille du Sahel ». Mais cette bataille est-elle gagnable ? Dans l'Union, Hervé Chabot souligne que la mise en route sur le terrain de moyens efficaces, capables de contrer, d'affaiblir et à terme d'anéantir ceux qui incarnent la menace, est beaucoup plus compliquée que prévu, avant de conclure qu'il reste du chemin à parcourir et que les terroristes en profitent pour semer le chaos. Et Christophe Lucet, dans Sud-Ouest, abonde dans le même sens en estimant qu'il est essentiel de compléter l'action militaire par un mélange de réformes politiques et de développement économique et social. C'est pour lui même la seule façon pour ces pays de couper l'herbe sous le pied des djihadistes. Et il souligne là aussi que pour y parvenir, ces pays ont besoin d'aide étrangère et que l'aide européenne reste encore bien timide et pas à la hauteur du défi que représente l'instabilité du Sahel pour tous les Européens et pas seulement pour les Français. Les 100 premiers jours d'Emmanuel Macron à l'Élysée continuent aussi d'inspirer les journaux ce matin. « Macron, l'épreuve des 100 jours », titre la Dépêche du Midi. Tandis que le Télégramme titre, lui, sur la fin de la lune de miel entre le président de la République et l'opinion, si on en croit en tout cas les sondages. Le bilan de ces 3 premiers mois de quinquennat inspire tout particulièrement nos confrères alsaciens ce matin. Pour Yolande Baldevec, éditorialiste de l'Alsace, au terme de ses 100 premiers jours de pouvoir, il est difficile d'entrevoir la transformation radicale de la société française annoncée pendant la campagne électorale. Dominique Jung lui répond dans Les dernières nouvelles d'Alsace que la reprise de la croissance est une chance pour Macron, une bouffée d'oxygène et d'optimisme. Avant de conclure, amener les Français à croire que le pire n'est jamais sûr est déjà une réforme majeure. Le scandale des œufs contaminés au fipronil est loin d'être terminé et préoccupe encore le Parisien ce matin. Quels sont les produits concernés ? S'interroge en une le quotidien qui consacre 2 pleines pages à ce qu'il appelle l'interminable chasse aux œufs. Le ministre de l'Agriculture, Stéphane Travert, interrogé par le Parisien, explique qu'une liste des produits concernés sera publiée dans les prochains jours. Le ministre qui donne raison aux associations de consommateurs qui revendiquent un droit à l'information, mais qui rappelle aussi que le risque sanitaire est selon lui très faible et qui appelle à la patience car les informations arrivent au ministère lot par lot, point d'entrée par point d'entrée, pour ainsi dire au compte-gouttes. Les propos du directeur d'un laboratoire européen mobilisé pour tracer les œufs et les produits concernés sont moins rassurants. Aux journalistes qui comparent ce scandale à celui des lasagnes à la viande de cheval en 2013, il répond que c'est bien pire, car des œufs, dit-il, il y en a partout. C'est vrai que la liste des préparations qui incluent des œufs est presque sans fin. Dans l'éditorial qui accompagne ce dossier, Stéphane Albouy insiste pourtant sur l'urgence qu'il y a selon lui à faire toute la transparence sur les produits concernés pour rétablir la confiance des consommateurs. Et un producteur bio interrogé donne lui ses propres conseils à ces mêmes consommateurs. Éviter les produits industriels, faire ses omelettes avec des œufs français et privilégier les fermes familiales. Au Canada, ce ne sont pas les œufs qui préoccupent les associations de consommateurs, mais les saumons transgéniques, nous apprend le journal Le Monde, daté d'aujourd'hui. Les autorités canadiennes les ont jugés propres à la consommation et ont donc autorisé leur commercialisation. C'est le premier pays à le faire. Et ces saumons OGM ont donc fait leur apparition dans les supermarchés canadiens, mais discrètement, car aucun étiquetage n'indique qu'ils sont transgéniques. C'est ce que dénoncent les associations de consommateurs et les écologistes canadiens qui demandent un étiquetage spécifique, explique l'auteur de l'article. La réponse de l'entreprise américaine qui distribue ces saumons est habile, car elle reprend à son compte un argument écologique. ces saumons OGM auraient une empreinte carbone 25 fois inférieure à leurs congénères, car ils atteignent leur taille adulte en 18 mois seulement, au lieu de 30. Ils consomment donc 75% de nourriture en moins. Jean Jouzel, vous qui êtes notre invité, spécialiste de l'environnement, est-ce que c'est un argument qui vous touche? Est-ce que les OGM peuvent aider à lutter contre le réchauffement climatique?
Oui, d'abord, je crois que les chiffres sont quand même sujets à caution. Et bon, disons, je réfléchirai avant de prendre ces saumons, avant d'acheter ces saumons.
En tout cas, l'impact sur le climat, il en est aussi question dans le supplément que consacre toujours Le Monde, daté d'aujourd'hui, aux Jeux Olympiques 2024 qui auront lieu, vous le savez, à Paris. Parmi tous les défis que devra relever la capitale française pour réussir ces Jeux, il y a celui d'organiser une compétition « verte », entre guillemets, c'est-à-dire d'avoir un impact sur l'environnement deux fois moindre que les Jeux de Londres ou de Rio, dont l'empreinte avait été estimée à environ 3,5 millions de tonnes équivalent CO2. Cela inclut notamment, explique Le Monde, la construction des sites, les déplacements des spectateurs et des athlètes, le fonctionnement de l'organisation. Mais ce ne sera peut-être pas le plus dur des défis. Obtenir les Jeux était presque le plus facile pour Paris. Le plus dur commence maintenant, explique le quotidien du soir. Pour qui le plus dur, justement, sera de raviver une flamme olympique éteinte par les affaires de corruption, les dégâts environnementaux donc, mais aussi économiques et sociaux des Jeux, et le poison du dopage. La barre est placée haut, comme l'écrit Le Monde en conclusion. Pour Renaud Lavillenie, elle était aussi très haute, la barre un peu trop haute même pour le perchiste français qui a dû se contenter de la médaille de bronze aux Mondiaux de Londres alors qu'il visait l'or. Dans une interview que l'équipe publie ce matin, Renaud Lavillenie révèle que cette performance moins éclatante qu'espérée est en partie due à son amour de la moto. Le perchiste explique s'être blessé au genou dans une chute lors d'une course en octobre dernier. L'opération et les séquelles de cette blessure auraient perturbé sa préparation. Il n'abandonnera pas la moto pour autant, mais promet de reprendre l'entraînement avec un nouveau record du monde du saut à la perche comme objectif. C'est à lire donc dans l'équipe aujourd'hui. Pour finir, cet appel surprenant ce matin à la une de Nord Littoral. Qui veut une cabine? Le quotidien du Nord-Pas-de-Calais nous apprend qu'Orange veut offrir les 10 dernières cabines téléphoniques publiques qui subsistent dans le Calaisis. Ces cabines, survivance d'un âge que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, celui d'avant les téléphones portables, autant dire le siècle dernier, vont être démontées d'ici à décembre prochain, explique un responsable de l'opérateur. Des cabines qui théoriquement fonctionnent encore, à condition d'avoir gardé une carte téléphone, mais ne sont plus entretenues par Orange depuis longtemps car elles ne sont quasiment plus utilisées. L'article précise qu'il en reste quand même 10 000 en France. Avis aux amateurs d'objets cultes donc. Ça vous intéresse Pierre, non?
Pour oui, salon. Les cabines téléphoniques, c'est formidable. À une époque, on mettait des pièces de 1 franc pour les faire fonctionner.